Moi, on m'apprend à construire et là, aujourd'hui, à l'autre bout du monde, il y a tout qui est tombé par terre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Trajectoire, un podcast produit par Envol. Ce podcast raconte des anecdotes, des trajectoires, des voyages qui changent une vie. Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Lola, architecte humanitaire qui traverse le monde au gré de ses missions. Quel est son rapport au voyage? Que représente-t-il dans son métier aujourd'hui? Elle nous répond. Bonjour Lola, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
On se retrouve aujourd'hui dans Trajectoire pour évoquer le ou les voyages qui ont changé votre vie. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a toujours beaucoup voyagé. Dès toute petite, c'est quelque chose qui m'a été transmis par mes parents, par ma famille au sens large. Et j'ai eu l'occasion de voyager avec eux dans plein d'endroits. Et aussi de voir qu'il n'y avait pas de petits voyages. Prendre la voiture ou prendre le van et partir le week-end, aller se baigner dans un lac, c'était déjà voyager pour nous. Et donc, assez jeune, j'ai commencé à partir loin. À 14 ans, j'étais en Italie avec ma correspondante, puis à 17, en Australie, à l'autre bout du monde. Et dès lors, j'ai compris que l'étranger, ça m'apportait quelque chose, une curiosité et l'absence de peur. Et j'ai continué.
Vous êtes aujourd'hui architecte humanitaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre métier?
Oui, j'ai été formée pour être architecte et l'humanitaire, malheureusement, on n'est pas formé à ça à l'école. C'est quelque chose qui est venu ensuite quand je me suis professionnalisée. Le métier d'architecte en humanitaire, l'objectif, c'est de venir sur terrain auprès de personnes, là en l'occurrence sinistrées, par des catastrophes, donc des tremblements de terre, inondations, cyclones, peu importe. On en connaît tous des événements très marquants qui ont eu lieu dans ces dernières années. Et on sait rarement que les architectes viennent aussi pour aider dans ces moments-là, que ce soit pour apporter une expertise technique, venir diagnostiquer un bâtiment, dire si c'est sûr de retourner dedans, est-ce qu'on peut loger des personnes à ce moment-là, ou aussi venir travailler auprès des personnes sinistrées dans toute la phase très longue qui suit, qui est la reconstruction. Venir remettre un toit sur la tête d'une personne qui l'a perdue, reconstruire un hôpital, une école, tous les bâtiments avec des fonctions essentielles qui peuvent avoir été touchés par ces catastrophes-là. Donc voilà, mon métier, c'est ça, c'est d'être là auprès des gens après les catastrophes.
Comment avez-vous entendu parler de votre métier?
Eh bien, justement, on a souvent un aspect médiatique très fort autour des catastrophes. On en entend parler et ça résonne énormément. Et quand j'ai démarré ma première année d'architecture, c'était le tremblement de terre au Népal qui avait été extrêmement dévastateur cette année-là. Et une association d'architectes de l'école, donc des plus âgés, ils finissaient leur master, ont monté tout de suite une association et se sont rendus sur place pour construire une école. Moi, c'était mes premiers mois à l'école et ça m'a tellement inspirée, ça a fait sens directement de me dire en fait, moi, on m'apprend à construire et là, aujourd'hui, à l'autre bout du monde, il y a tout qui est tombé par terre. Le lien, il est là et eux, ils l'ont fait et ils nous ont un peu montré la voie. Et au final, ça m'a suivi toutes mes études. J'ai toujours essayé d'orienter ma formation pour qu'elle me permette un jour de pouvoir faire ça.
C'était une vocation? Pourquoi avoir voulu faire ce métier?
C'est quelque chose qui a fait sens pour moi assez vite, au travers de ces premières expériences que j'ai eues d'abord à l'école, mais ensuite dans la manière de pratiquer. Dès le stage, j'ai su que ça fonctionnait pour moi. Le fait d'être là dans ces moments-là, ça m'apporte tellement que j'ai compris que j'y trouvais vraiment du sens personnel, autant que professionnel en pratiquant.
Quel est votre parcours, justement, pour devenir architecte humanitaire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude?
Alors, j'ai suivi un parcours d'études assez classique, en fait, en architecture, qui se passe en 5 ans, avec une licence et un master. Mais j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir aussi beaucoup bouger et m'expatrier pendant mes études. En 3e année de licence, j'étais en Australie, à Melbourne. Et ensuite, j'ai choisi un double master franco-chinois en architecture et urbanisme, qui m'a permis de travailler la première année à Versailles, puis la seconde à Shanghai, en Chine. Donc finalement, l'expatriation, elle a toujours fait partie aussi de mon parcours, que ce soit dans mes loisirs et puis ensuite dans mes études. C'est devenu très présent et c'est toutes ces années en vivant à l'étranger qui m'ont donné le goût de continuer ensuite dans mon côté pro. Mais ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est au travers des studios de projet, d'essayer de me spécialiser sur la gestion des risques. Et il faut savoir qu'on en a aussi en France, hein, c'est pas spécifique à l'étranger. Donc j'ai pu, au travers de ces studios-là, déjà travailler la question de la gestion des inondations, par exemple. Et puis ensuite, on est obligé de faire des stages pendant notre cursus et je les ai orientés vers des fondations ou des structures qui pouvaient à nouveau m'apporter quelque chose dans cette professionnalisation vers le risque. Et suite à ça, mon tout premier stage a été directement en ONG, Et ensuite, je considère que c'est un métier qui s'apprend aussi beaucoup sur le terrain. C'est difficile d'avoir une formation théorique sur l'urgence puisque c'est très lié à des contextes et beaucoup de choses qui sont, même s'il y a des leçons à apprendre, beaucoup de choses qui s'apprennent dans les contextes actuels. Et donc, j'ai commencé d'abord avec un stage, puis qui s'est transformé en premier contrat et qui m'a permis de travailler sur plusieurs missions. Des missions courtes, parfois d'urgence seulement d'une semaine, et parfois des missions très longues, d'un an et demi, deux ans, où je suis sur terrain pour la construction et pour un chantier.
En quoi le voyage impacte ou a impacté votre quotidien ?
Pour lier cette enfance où j'ai beaucoup voyagé, et maintenant, mon quotidien où en fait je suis amenée à travailler à l'étranger, je pense que en grandissant, ça m'a permis d'avoir tout de suite une ouverture et une curiosité sur le fait de me trouver à l'étranger, de m'adapter, d'avoir envie de découvrir ces lieux, ces endroits, ces gens qui vivaient autrement. Aujourd'hui, dans mon quotidien, ça me permet de me sentir confortable, à l'aise dans tous ces contextes-là et de garder cette même curiosité, cette même découverte à chaque fois que je suis déployée sur un nouveau terrain. Et il faut savoir que souvent, c'est dans des zones qui sont difficiles et surtout dans des moments qui sont difficiles. Et d'arriver à approcher ça avec découverte et curiosité, ça me permet en tout cas de me sentir bien et de pouvoir travailler efficacement, sans peur ou crainte sur place.
Quel est le voyage qui vous a le plus marqué ?
Il y a eu à la fois pour moi des voyages qui ont été très marquants, mais qui sont bien à dissocier des missions qui ont été très marquantes aussi. Et pour lesquelles j'étais à l'étranger. Parmi les missions les plus marquantes que j'ai vécues dans mon parcours professionnel, je dirais que c'est la mission Haïti. C'était une des premières pour moi. Et c'est un contexte qui est à la fois très dur à vivre, à traverser, et en même temps qui m'a extrêmement enrichie et appris sur ce pays, sa culture et ses habitants. Donc je dirais très marquant parce qu'il a aussi renforcé mon envie de continuer ce métier. Qu'il a confirmé le sens que je voulais mettre à ce travail. Pour autant, si je dois vraiment parler de la notion de voyage, celui dans lequel j'ai pas ce côté professionnel à affirmer, j'ai pendant mes études eu beaucoup de chance de pouvoir être à l'autre bout du monde, en Australie, et je donne souvent cet exemple à mes amis. Je me suis offert pour mes 20 ans un voyage en Nouvelle-Zélande toute seule. C'était pas le premier, mais j'étais avec mon backpack toute seule, et le jour de mes 20 ans, je suis passée devant une vitrine, le sac à dos sur le dos. Il était 6h du matin, j'allais prendre le bus. Et en fait, en me regardant, j'étais tellement remplie de joie et d'alignement en me disant « Ah ouais, c'est ça, c'est cette image-là. Là, j'ai 20 ans et si ça peut être ça jusqu'à mes 30 ou plus, ben en fait, trop bien. » Je suis excitée d'avoir ce quotidien-là et de le vivre.
Quel était votre lien avec le voyage avant de faire un métier qui nécessite de voyager sans cesse ?
Je dirais qu'avant ça, déjà, c'était un lien avec ma famille et c'était le loisir, les vacances, voyager pour se dépayser et découvrir le monde. Aujourd'hui, je passe mon quotidien déjà loin de mes proches, loin de ma famille. Et souvent, quand c'est l'heure du repos, du loisir, des vacances, je vais plutôt avoir tendance à rentrer en France. Le voyage a un peu changé dans ce sens-là. Pour autant, il occupe toujours une place importante dans ma vie. Parce que cette curiosité, elle est toujours là et finalement, elle me donne envie, quand je suis sur terrain, d'aller découvrir des zones sur mes lieux de mission qui sont un peu plus reculées, isolées, des endroits que j'aurais peut-être pas découvert seule ou du moins spontanément en regardant un livre de voyage. Aujourd'hui, ça m'éloigne un peu des sentiers battus peut-être.
Pour vous, que représente le voyage de manière générale ?
Je pense que je l'ai dit plein de fois, mais ça va peut-être être le mot découverte alors. Le mot découverte, c'est peut-être partage et rencontre, puisque que ce soit seul ou avec les gens qui ont fait tous ces voyages avec moi, il y a toujours eu un moment où je me sens vraiment voyager quand j'ai l'impression d'avoir découvert le pays, rencontré quelque chose de particulier des endroits dans lesquels je me trouve. Et parfois c'est un lieu, mais parfois c'est aussi quelqu'un. Et je pense que de tous ces voyages qui m'ont marqué, c'est aussi tous ces gens qui m'ont marqué au travers.
C'est beau, c'est super beau. Bah, merci beaucoup Lola pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter Trajectoire, un podcast produit par Envol. Clémence Boucrot à l'animation et à la rédaction en chef, Romain Lopi au montage et à l'habillage sonore. Merci et à bientôt.